Merci d'écouter RFI, 4h30 à Paris, 3h30 temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
La situation continue de se tendre au Soudan du Sud. Le porte-parole du gouvernement, fidèle au président Salva Kiir, a confirmé hier le placement en résidence surveillée du vice-président Riek Machar. Ce dernier est accusé par le porte-parole d'avoir fait obstruction à l'accord de paix de 2018 en orchestrant des attaques contre l'armée gouvernementale dans le nord-est du pays en début de mois. Selon les informations de RFI, des délégations de Kinshasa et du M23 sont en ce moment à Doha, au Qatar, pour des pourparlers indirects sur le conflit dans l'est de la RDC. Une visite en urgence du président somalien en Turquie ces deux derniers jours pour demander du soutien en raison des difficultés de l'armée somalienne face aux terroristes d'Al-Shabaab. La commémoration de l'insurrection du 29 mars 1947 à Madagascar également à la une. Et puis la jeunesse veut jouer un rôle dans la lutte contre la faim dans le monde et l'a fait savoir au sommet Nutrition pour la croissance à Paris. Au Soudan du Sud, le camp de la présidence accable Riek Machar. Hier, le porte-parole du gouvernement a confirmé le placement en résidence surveillée du premier vice-président. Une décision instaurée en fait dès mercredi dans la soirée à la suite de son interpellation. Mais c'est la première fois que les autorités sud-soudanaises confirment, alors que le parti de Riek Machar avait dénoncé une violation de l'accord de paix de 2018, considérant même celui-ci comme abrogé. Le porte-parole du gouvernement a donné sa version. Selon lui, Riek Machar fait obstruction à l'accord de paix. Florence Mietto.
Michael Makuei a affirmé que des rapports de renseignement et de sécurité prouvent que Riek Machar a orchestré les attaques contre l'armée gouvernementale dans la région du Haut-Nil, dans le nord-est du pays, depuis début mars.
Au lieu d'ordonner à ses forces de se retirer, Riek Machar a ordonné à ses forces d'attaquer. Et résultat, la garnison de Nasir a été prise le matin du 4 mars.
Michael Makuei a ensuite déroulé la liste des incidents sécuritaires qui se sont amplifiés tout au long du mois. Selon lui, Riek Machar en est responsable. La mort du général Madjour Dak lors de son évacuation de Nasir par l'ONU le 7 mars serait le résultat des directives de Riek Machar, selon le porte-parole, tout comme les combats qui ont éclaté en début de semaine dans des centres d'entraînement des forces de l'armée unifiée prévues par l'accord de paix. Des troubles qui se sont dangereusement rapprochés de Djouba.
En se basant sur ça et afin de sauver l'accord de paix, son Excellence le président Salva Kiir a ordonné que le vice-président Riek Machar soit placé en résidence surveillée, le temps de conduire des investigations.
Cette décision a pourtant ravivé les craintes d'un retour de la guerre civile. Hier, Antonio Guterres a lancé un nouvel appel au dialogue entre Salva Kiir et Riek Machar. Florence Mietto, Djouba, RFI.
La discrétion de la diplomatie qatarienne une nouvelle fois à la manœuvre pour tenter de trouver une issue au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon nos informations, des délégations de Kinshasa et du M23 sont en ce moment à Doha. Des échanges avec la médiation qatarienne sont en cours. C'est déjà dans la capitale du petit émirat du Golfe que s'étaient rencontrés le 18 mars dernier Félix Tshisekedi, président congolais, et Paul Kagame, son homologue du Rwanda, soutien du groupe armé. Toujours en RDC, dans la province de l'Ituri, depuis maintenant un mois, c'est la présence de l'armée ougandaise qui interroge. Les armées des deux pays luttent déjà conjointement depuis plusieurs années contre le groupe armé ADF. Hier, à Bunia, la capitale de la province, elle a aussi accueilli les états-majors des deux pays pour cette fois clarifier la coordination de leurs opérations dans les territoires de Djougou et de Mahagi, fief de la coopération pour le développement du Congo, la CODECO, Paul Lorgerie.
Dans un communiqué concis diffusé lors des discussions, le porte-parole de la province, le lieutenant Jules Ngongo, a indiqué que FARDC et UPDF coordonnent leurs opérations après les avoir évaluées. En jeu, l'extension ou non de l'opération Shujaa. Selon nos informations, des propositions ont pour l'heure été envoyées aux hiérarchies respectives. L'objectif premier étant de sécuriser la route nationale 27, voie d'approvisionnement de Bunia. Depuis quelques semaines, des affrontements entre les miliciens de la CODECO et les forces de défense du peuple ougandais sont enregistrés chaque jour, non loin de cette route, autour de la localité de Fataki dans le territoire de Djougou. Pour une source à Bunia, la position de l'Ouganda en Ituri est difficilement lisible. Leur récente arrivée dans la province, conjuguée à la création d'un nouveau groupe armé à Kampala et aux déclarations sur X du chef d'état-major, avait créé la confusion, développe notre source. L'officiel ougandais, fils de Museveni, avait qualifié cette zone frontalière de zone d'influence de l'Ouganda. Et si le lieutenant-général Jackie Chaligonza, adjoint de l'état-major des FARDC sur place, a appelé les groupes armés à déposer les armes, un observateur craint que ces opérations opération n'entraîne des conséquences pour les populations. Depuis janvier, plus de 200 civils ont été tués et 100 000 personnes ont été déplacées dans la province selon les Nations Unies.
Paul Lorgerie. En Guinée, Moussa Dadis Camara, gracié pour raison de santé par l'actuel chef de la transition Mamadi Doumbouya, l'ex-dictateur et ancien président de la junte, entre décembre 2008 et décembre 2009, avait été condamné en juillet dernier à 20 ans de réclusion criminelle pour crimes contre l'humanité dans les massacres du 28 septembre 2009 à Conakry. La Somalie réclame un soutien urgent de la part de la Turquie. Hassan Cheikh Mohamoud, le président somalien, achevait hier une visite de 2 jours à Ankara, en Turquie. Il s'est entretenu notamment jeudi avec son homologue Recep Tayyip Erdogan. Rendez-vous pris à la hâte, alors que les troupes fédérales somaliennes ont essuyé plusieurs revers contre les terroristes Shebab Gel, Alex.
Le président Hassan Cheikh Mohamoud a eu un entretien fructueux avec son homologue turc. Ils ont notamment parlé de soutien à la sécurité, peut-on lire dans le point hebdomadaire du gouvernement somalien. C'est à l'invitation de Recep Tayyip Erdogan que le président somalien s'est rendu à Ankara. Pour cela, il a dû quitter l'état du Moyen Chabélé dans le sud-est du pays où les troupes fédérales et le groupe terroriste Al-Shabaab s'affrontent violemment. Mercredi, les terroristes ont récupéré la ville de Masji Ali Gadoud, libérée 2 ans plus tôt par l'armée. La Turquie et la Somalie ont signé un accord de défense en février 2024. Ankara est l'un des principaux fournisseurs d'armes de Mogadiscio. La semaine dernière, 2 drones de combat turcs ont notamment été livrés à la Somalie. Le marché de l'armement est extrêmement concurrentiel et les acheteurs privilégient les armes ayant prouvé leur efficacité en temps de guerre, explique Ahmed Abou Youssef, chercheur pour le centre Al-Ab Tour. Les armes turques sont ainsi testées en Somalie en espérant attirer d'autres acheteurs africains. Selon l'Institut international pour la paix de Stockholm, les ventes d'armes turques en Somalie ont été multipliées par 6 entre 2011 et 2021. 3. Gael Alex Nairobi, RFI.
Ce fut l'une des premières déstabilisations contre l'administration française des colonies. Madagascar commémore aujourd'hui l'anniversaire de l'insurrection du 29 mars 1947, une date à laquelle des rebelles malgaches se soulèvent contre les troupes coloniales françaises à Mouramang, à une centaine de kilomètres de la capitale, révolte qui s'étalera ensuite le long de la côte est de l'île. En réponse, 18 000 soldats français sont alors déployés. S'ouvre alors une période de 21 mois de répression marquée par des exécutions sommaires, la torture de civils et les incendies de villages. Un événement qui a marqué la mémoire d'une partie des Tananarivians. Reportage de Pauline Le Troquier.
Le 29 mars, nos ancêtres étaient morts à cause des Français quand on a fait la guerre.
C'est avec ces mots que Miarn, 10 ans, résume l'histoire de Mars 47. Son école, située à Ambudzatouv, en plein cœur de la capitale, donne directement sur la stèle commémorative de l'insurrection. Mais à la différence de ses camarades, ce jeune garçon connaît bien le symbole de ce monument. Lui a été bercé par le récit familial des événements.
Mon arrière-arrière-grand-père, il a fait la guerre et il est mort. C'était ma grand-mère qui m'a raconté cette histoire. Chaque 29 mars, on vient dans sa tombe pour célébrer sa mémoire et dire qu'il est dans nos cœurs.
Chaque année, le 29 mars est décrété férié et chômé dans le pays. À la télévision et à la radio, des chansons célèbrent l'héroïsme des combattants malgaches. De quoi réveiller un sentiment de patriotisme légitime et nécessaire pour Vloul. Mais cette passante pointe une récupération politique de la classe dirigeante.
Cet événement est utilisé par les politiciens pour prouver qu'ils sont patriotes, alors que selon moi, ils ne le sont pas vraiment. Quand on voit la situation dans laquelle se trouve le peuple, je pense que la classe politique fait plus attention au paraître qu'au bien du peuple.
Ces événements représentent dans la mémoire collective l'un des épisodes les plus douloureux de la colonisation de l'île. Sans présenter d'excuses officielles, l'ancien président français François Hollande avait reconnu en 2016 les crimes commis par la France. À l'époque, la répression coloniale avait fait entre 12 000 et 23 000 victimes selon les historiens. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
La jeunesse porte-parole de la lutte contre la malnutrition. Le sommet dédié à ce combat, Nutrition pour la croissance, s'est terminé hier à Paris. Au milieu des délégations étatiques, des grandes entreprises et des ONG, les jeunes ont réclamé des solutions pour enrayer la crise alimentaire mondiale. Christina Okello a rencontré 2 d'entre eux, venus du Tchad et du Bénin.
Youssef Ali Hassan, avocat tchadien de formation, s'est engagé par conviction pour un meilleur accès à l'alimentation après avoir vu des gens mourir de faim.
Au Tchad, la malnutrition est quand même assez présente et on constate que ces derniers temps, c'est exacerbé par les changements climatiques. Tantôt, au nord du Tchad, il y a la désertification qui accentue l'accès à la nutrition. Et tantôt au sud, on en assiste à des inondations qui font en sorte qu'il n'y a pratiquement plus de récolte. Alors qu'en réalité, il existe maintenant des grains qui sont résistantes à la sécheresse, par exemple.
Les jeunes présents à Paris ont lancé un appel à l'action. Il demande d'être acteur du changement à travers l'éducation nutritionnelle, l'agriculture durable et une meilleure inclusion de ces sujets dans les politiques publiques. Aude Brice Coudrin, militant béninois.
On a également discuté avec des étudiants qui ont une couche assez vulnérable. Le plus important pour eux, c'est de manger beaucoup, donc ils ne font plus vraiment attention à la qualité de ce qu'ils mangent. Lors de notre dialogue communautaire, nous avons discuté avec des jeunes qui ont proposé des solutions, notamment la mise en place sur les universités de plusieurs structures de restauration et également l'installation de jardins communautaires pour qu'ils puissent avoir les moyens de s'offrir une alimentation saine et équilibrée.
Le message est clair, l'accès à une alimentation suffisante ne doit pas être un privilège mais un droit. À la clôture du sommet, les jeunes ont rappelé leur mot d'ordre « Nothing for us without us, rien pour nous sans nous ».
Christina Okello, et il demande aussi à ce que les 27,5 milliards de dollars d'engagement annoncés à Paris soient suivis d'effet. Une plateforme de suivi, le Global Nutrition Report, a d'ailleurs été mise en place pour en garantir la mise en œuvre. Une pièce du puzzle patrimonial ivoirien de retour au pays. Le Japon a rétrocédé 6 objets culturels à la Côte d'Ivoire en début de semaine. Une cérémonie a même été organisée à Tokyo en présence de la ministre ivoirienne de la Culture, Françoise Remarque. Les pièces en question, elles, sont arrivées à Abidjan jeudi soir, Binta Diagne.
Il s'agit de 6 objets culturels appartenant au groupe Akan. Il y a là un couple de statues baoulées, un masque sénoufo symbolisant la maternité. À cela s'ajoutent 2 chiwaras en bronze et un ensemble de 21 objets servant à peser l'or qui, eux, sont restés à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Tokyo. À l'origine, ces objets culturels avaient été offerts en 1993 par le président Félix Houphouët-Boigny à la cour impériale du Japon. Plus de 30 ans plus tard, la princesse Takamado a décidé de les rétrocéder à la Côte d'Ivoire, notamment pour des raisons spirituelles. Dans la tradition japonaise, le masque est considéré comme un esprit. Il doit revenir dans ses terres, explique une source proche du dossier. Les objets culturels rétrocédés sont dans un très bon état, estime une responsable du département de la culture. Prochaine étape, les autorités ivoiriennes vont formellement informer les communautés concernées du retour de ces objets en Côte d'Ivoire. Ensuite, une réflexion va être menée pour déterminer le lieu où ils seront conservés. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
RFI, 3h42 à Abidjan et en temps universel.
Afrique Matin sur RFI. Paul Lancin Spinelli.
Et dans les 15 prochaines minutes, on va longuement revenir sur le début aujourd'hui de la campagne pour la présidentielle du 12 avril au Gabon. 8 candidats sont en lice, notamment le général Brice Clotaire-Oligui Nguema. Le scrutin doit mettre fin à sa présidence de transition entamée après son coup d'état du 30 août 2023. Qui avait mis fin au règne des Bongos. Pour revenir sur les enjeux de ce vote, Florence Bernot, enseignante en histoire de l'Afrique subsaharienne à Sciences Po Paris, répond aux questions de François Mazet. 2 autres rendez-vous à venir dans le prochain quart d'heure. La une du magazine Jeune Afrique, consacrée au massacre de Peul à Solenzo, dans l'ouest du Burkina Faso. Muriel Mahalouf, elle, vous fera découvrir cette pièce de théâtre consacrée à la thématique de l'enfant sacrifié au travers des personnages d'Antigone, d'une jeune placée en France, une œuvre qui évoque aussi les enfants palestiniens massacrés. À la une du magazine Jeune Afrique, cette semaine, ce massacre de civils Peul à Solenzo, dans l'ouest du Burkina Faso, un drame sur lequel revient François Soudan, directeur de la rédaction de JIA. Il répond aux questions d'Amélie Beaucourt.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Amélie.
Les images chocs de ce massacre qui ont largement circulé sont selon vous irréfutables?
Tout à fait. Les vidéos insoutenables que nous avons évidemment checkées, vérifiées de ces massacres commis les 10 et 11 mars dans une zone rurale de la province des Banois à l'ouest du Burkina Faso, vidéos filmées par leurs auteurs eux-mêmes qui les considèrent manifestement comme des exploits, sont de toute évidence authentiques et les autorités burkinabées qui parlent de vidéos truquées sont bien en peine de démontrer le contraire. On y voit des miliciens VDP relevant de 2 unités clairement identifiables sur les images, le groupe d'autodéfense de Mawana et la force rapide de Kuka s'en prendre jusqu'à les massacrer à des familles entières de civils Peul. Nous sommes ici dans la région de la boucle du Moun, frontalière avec le Mali, qui est l'une des régions les plus frappées par le terrorisme au Burkina. Il s'agit très vraisemblablement d'une opération de ratissage anti-djihadiste qui, une fois de plus, a dérapé en exaction contre des populations suspectées de collaborer avec l'ennemi. À noter, Amélie, que ces miliciens VDP étaient censés être contrôlés, encadrés dans cette région par le 18e bataillon d'intervention rapide de l'armée burkinabé, lequel manifestement n'est pas intervenu. On dénombre au minimum 58 victimes.
Quelle a été, François, la réaction des autorités burkinabées après la diffusion de ces vidéos ?
Alors, face à l'émotion suscitée par ces images, une double réaction. La première, qui est censée aller dans le sens de l'apaisement, à usage autant externe qu'interne d'ailleurs, a été le 20 mars, l'ouverture d'une enquête judiciaire, non pas sur le massacre de la région de Solenzo lui-même, qui demeure tabou, hein, comme les autres, mais à l'encontre de ceux qui, à travers leur profil ou leur page Facebook, partagent ce type de vidéos en les accompagnant de messages quasiment génocidaires, hein, appelant à l'extermination des Peuls via les opérations dites « zéro Peul ». La seconde réaction, elle émane du capitaine Ibrahim Traoré lui-même, à l'occasion d'un discours prononcé le 22 mars à Zignaré, sous la forme d'une sorte de cadrage idéologique. Pour lui, le Burkina est la cible d'une guerre de communication menée, je cite, par des médias impérialistes mensongers qui cherchent à diviser et à manipuler les Burkinabés. Et il conclut, le capitaine Traoré, si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. Alors, une menace, clairement, hein, rapidement suivie des faits, puisque on sait, cinq membres de l'ONG Sens qui avaient dénoncé le massacre des Banois ont été kidnappés en plein Ouagadougou par des agents des services de sécurité, suivis quelques jours plus tard, Amélie, par deux journalistes qui avaient eu l'audace de critiquer la caporalisation des médias d'État.
Est-ce qu'on peut parler de ciblage de la communauté Peul par les forces de défense et de sécurité ?
Alors, il n'y a aucune déclaration officielle des autorités burkinabées allant dans ce sens, hein, dans le sens d'un ethnocide, je crois qu'il faut le dire. Mais on ne peut que constater une forte tendance à cibler cette minorité, qui représente entre 7 et 8% de la population, dans les actions de ratissage, de répression antiterroriste, un phénomène que l'on retrouve, quoiqu'à un degré moindre, au Mali, hein, où une milice comme Danam Bassougou a, tout comme les Burkinabés et les VDP, été recrutée sur une base qui est essentiellement communautaire. Alors bien sûr, c'est un cercle vicieux, puisque les djihadistes profitent très cyniquement de chaque exaction pour recruter massivement des combattants et des cadres intermédiaires au sein d'une population Peul, qu'un narratif aussi répandu que toxique à travers le Sahel présente comme une sorte de cinquième colonne transhumant à travers des frontières poreuses. C'est cet amalgame dangereux entre Peul et djihad que dénonce dans nos colonnes le chercheur Marc-Antoine Pérouse de Monclos, Amélie.
Des articles sur le massacre de civils Peul à Solenzo au Burkina Faso à retrouver sur le site jeuneafrique.com. François Soudan, merci.
Merci Amélie.
François Soudan qui répondait donc aux questions d'Amélie Beaucourt. Vous écoutez toujours RFI à la une de l'actualité internationale ce samedi 29 mars. Ces premiers bilans encore très provisoires du séisme qui a frappé la Birmanie et la Thaïlande. Il monte à plus de 700 morts. Hier matin, un tremblement de terre de magnitude 7,7 a secoué le centre de la Birmanie, suivi d'une réplique violente quelques minutes plus tard. À l'heure actuelle, la quasi-totalité des victimes sont recensées en Birmanie où la junte militaire au pouvoir parle de 694 morts et 1670 blessés. Des scènes de panique ont été constaté aussi à Bangkok, capitale thaïlandaise, où un immeuble en construction de 30 étages s'est effondré en quelques secondes, piégeant des dizaines de personnes sous les décombres. La répression s'intensifie en Turquie. À quelques heures d'une manifestation de grande ampleur, plus de 2000 personnes ont été arrêtées depuis l'incarcération il y a 10 jours du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu étant considéré comme le principal rival politique du président Erdogan. Et puis 4 mois après la trêve, de nouveaux bombardements israéliens dans la banlieue de Beyrouth, des tirs ont touché les quartiers sud de la capitale, considérés comme un bastion du Hezbollah par Israël. Deux semaines pour trouver les arguments qui font mouche et convaincre les électeurs gabonais indécis. La campagne officielle en vue de la présidentielle du 12 avril débute aujourd'hui. 8 candidats sont en lice, parmi eux le chef de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, qui avait renversé Ali Bongo lors du coup d'état du 30 août 2023. Pour analyser les enjeux de ce vote, François Mazet reçoit Florence Bernot. Elle est professeure d'histoire de l'Afrique subsaharienne à Sciences Po Paris et a coordonné le dernier numéro de la revue politique africaine Gabon, corps politique et coup d'État.
Bonjour Florence Bernot.
Bonjour.
La campagne électorale officielle débute ce samedi au Gabon, mais l'élection du 12 avril n'est-elle pas déjà jouée ?
On peut se le demander, mais quand on pense à l'élection d'août 2023, on n'est jamais à l'abri des surprises. Là, je pense qu'on est quand même dans une autre configuration, bien sûr. Le général Brice Oligui Nguema est quand même toujours quasiment au fait de sa popularité. Il y a peu d'opposants crédibles, mais c'est quand même une étape importante dans la légitimation de ce pouvoir.
Justement, Brice Clotaire-Oligui Nguema, il a réuni autour de lui la quasi-totalité des dignitaires du régime déchu, des anciens opposants et même des grandes voix critiques de la société civile. Est-ce que vous êtes surprise par cette unanimité autour du chef de la transition ?
Je ne sais pas si je parlerai d'unanimité, mais il est certain que la venue au pouvoir de Brice Oligui Nguema a donné lieu à une recomposition vraiment des forces politiques. Il a remis finalement au pouvoir et comme interlocuteur des grandes familles, des composantes de la société civile qui avaient été finalement relativement écartées par le clan familial autour d'Ali Bongo. Ça explique sa capacité finalement à la fois recomposer, mais inclure, il parle beaucoup d'inclusivité dans son discours, une grande partie de ses forces politiques.
Alors le principal challenger de Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est Alain-Claude Bilibinzé, un des piliers de la présidence d'Ali Bongo, qui multiplie d'ailleurs les attaques contre la transition. Est-ce que, selon vous, c'est un opposant crédible? Est-ce qu'il peut convaincre des gens qui sont frustrés par ces difficultés du quotidien et qui pensent que le pays ne va peut-être pas dans le bon sens avec la transition?
Certains au Gabon se posent un peu la question de cette candidature. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, qu'il y ait un opposant avec une vraie stature. Ceci dit, bon, c'était l'ancien, le dernier premier ministre d'Ali Bongo. Il représente quand même vraiment l'ancien régime. Coopté, qui était vraiment les piliers du système, le PDG, et finalement aujourd'hui, et cette élite et le PDG sont très déstructurés, très silencieux. Je ne pense pas que vraiment il y ait déjà une érosion de la popularité de président de la transition telle que les gens auraient recours vraiment à un ancien cacique du pouvoir déchu.
Dans ses déclarations, le général Oligui Nguema, il alterne entre la valorisation d'un côté de l'héritage des Bongos, la restauration de la dignité, c'est quelque chose qu'il dit souvent, et les promesses de rupture avec l'ancien système. Comment est-ce que vous voyez le mélange de ces deux discours?
C'est en partie ce coup d'État qui appelait sur place le coup de libération, une restauration du régime d'Omar Bongo, c'est-à-dire une sorte de période qui a été vue quand même comme positive sur le plan de la prospérité économique. Et ce qui est rejeté finalement dans l'héritage Bongo, ce n'est pas Omar le père, c'est Ali le fils, qui a vu vraiment un divorce énorme entre la société civile gabonaise et son président et son entourage. Là, vraiment, c'est là-dessus que je pense Brice Oligui Nguema veut faire une rupture. Ça se place en partie sur un plan moral, c'est-à-dire celui de l'indignité et de la honte, qui sont des sortes d'émotions politiques par lesquelles les Gabonais exprimaient leur malaise dans une situation où ils voyaient Ali Bongo comme une personne étrangère, une personne qui amenait des valeurs extérieures qui humiliaient finalement les Gabonais, qui amenait aussi beaucoup d'élites étrangères. Donc c'est là où finalement Brice Oligui Nguema se situe, au carrefour d'une rénovation, restauration des valeurs ancienne, si vous voulez, et une rupture avec ce régime de 14 ans où, pour lui et pour quand même beaucoup de Gabonais, il y a eu un véritable dévoiement de ses valeurs.
Il joue sur une forme de mythologie d'un âge d'or de l'époque d'Omar Bongo. Donc, c'est pas pour rien s'il a appelé son rassemblement le rassemblement des bâtisseurs. C'est un clin d'œil direct à Omar Bongo.
Oui, alors, en fait, ce rassemblement des bâtisseurs est très intéressant à plus d'un titre. Mon collègue avec qui j'ai dirigé donc le numéro de Politique africaine, le sociologue Joseph Tonda, parle, en ce qui concerne ce rassemblement des bâtisseurs, d'un parti unique virtuel. Pourquoi ? Parce que c'est en fait une plateforme. C'est un rassemblement d'associations qui, évidemment, soutient Brice Oligui Nguema. Donc, c'est intéressant parce que c'est à la fois un parti unique, si vous voulez, mais qui n'a pas la rigidité, le côté institutionnel du PDG, de l'ancien parti unique. Donc, il y a un rappel à Omar Bongo dans le côté parti unique, dans le côté bâtisseur. Il y a cette idée qui est un petit peu comme la restauration. C'est un mélange entre une rupture et une reconstruction du parti unique par d'autres moyens, finalement.
Merci Florence Bernot.
Florence Bernot, enseignante à Sciences Po Paris, interrogée par François Mazet. Donner une tribune à une enfance inaudible, une enfance que l'on n'écoute pas, c'est ce qu'a voulu faire Tamara Al-Saadi dans sa dernière pièce de théâtre. Elle s'appelle Terre, T-A-I-R-E. Un récit traversé par deux héroïnes, Antigone, figure de la mythologie grecque, face à Éden, une enfant placée en France, Muriel Mahalouf.
Enfant, infant, en latin, signifie celui qui ne parle pas. C'est par cette phrase que s'ouvre la pièce Terre de Tamara El-Saadi sur l'enfance.
La question de la voix de l'enfant qu'on n'entend pas, qui est inaudible, m'a toujours un peu obsédée. La question des silences au théâtre et en soi est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais notamment de l'endroit de l'écoute de l'enfant et aussi de comment on silencie l'enfant et quelles sont les conséquences sur l'humanité.
Deux héroïnes se font face dans la pièce. Eden, une enfant placée, ballottée d'un endroit à l'autre, au gré d'une administration absurde, crie et se débat. Antigone est muette. Son silence est aussi grand que la tyrannie du roi Créon qui veut l'empêcher d'enterrer son frère Polynice.
Antigone, c'est un personnage qui m'accompagne depuis que je suis adolescente. J'avais l'impression que je la comprenais, quoi. Puis il s'avère qu'elle est restée à nos 14 ans et que moi j'ai grandi. Donc je la regarde maintenant avec mes yeux d'adulte et forcément j'ai plus le même regard sur elle. Et la démarche était de un peu questionner les perceptions de la jeunesse d'aujourd'hui sur cette figure-là. Et notamment des jeunesses qui sont victimes de ségrégation et d'oppression, à la fois sur le sol français, mais initialement aussi dans les seuls territoires occupés et victimes de colonialisme de l'ère contemporaine, à savoir la Palestine.
Quand ils sont venus prendre ma maison et qu'ils m'ont chassé de Thèbes, j'ai caché la clé. Demain, j'ouvrirai la porte et on rattrapera le temps perdu. On me fait porter la culpabilité d'une histoire qui n'est pas la mienne.
Ainsi, la tragédie d'Antigone est traversée par celle actuelle de la Palestine et de ses enfants massacrés. Et quand les mots lui manquent, Tamara El-Saadi fait appel à la danse.
Le corps et le silence des corps, leur mouvement en fait est capable de traduire bien plus que les mots. D'où cette nécessité de travailler avec Sonia El-Kadir, qui est la chorégraphe avec laquelle je travaille depuis plusieurs années. On travaille ensemble et je dis voilà, en fait sur cette scène-là, ce que j'ai besoin de raconter sur ça, ben en fait j'ai pas les mots, mais toi tu vas avoir les gestes, alors aide-moi. Et c'est comme ça qu'on travaille.
La danse, mais aussi la musique est très présente. Et le chant se mêle au jeu des acteurs, se réduisant parfois à un mot, comme Biladi, mon pays, scandé à l'infini, telle une prière.
Biladi, Biladi.
Muriel Mahalouf, Terre, la pièce de Tamara El-Saadi est actuellement en tournée. Elle se joue en ce moment au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, en région parisienne. Puis on termine cette édition en musique avec le morceau Birima de l'indémodable Youssou N'Dour. Birima de Youssou N'Dour, c'est la fin de cette première édition d'Afrique Matin. Merci à vous de l'avoir suivi. Laurent Hérault était à la réalisation. Édouard Dupénoit à la rédaction en chef. Dans 30 secondes, Juliette Pietraszewski pour le retour de l'info sur RFI.
Un jour au village, Penaï Traoré.
La malnutrition est l'une des premières causes de mortalité infantile dans le monde, surtout en Afrique subsaharienne. Comment y mettre fin ? Acteurs publics, privés et de la société civile proposent des initiatives locales pour y faire face.
Un jour au village avec Penaï Traoré, tout à l'heure à 13h10 TU sur RFI.